A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Alors c'est vrai, Ariane aime Gustave Mahler, mais pas autant que le Niger. Il y a parfois sur la terre dans sol majeur des rencontres où le lait de chamelle vaut bien une autoroute, où des oasis de vie se trouvent davantage au cœur du désert que derrière un robinet d'eau occidental. Je m'égare, j'ai l'impression. Reprenons. Qui est Ariane Curtley qui a toqué à notre porte? En trois mots, c'est une humanitaire, maman du monde et artiste. Longue chevelure blonde et battement de cœur très africain, elle a quelque chose entre Blondine et Mami Wata. Elle ne fait pas qu'aimer, elle agit. Fondatrice de l'ONG Aman Iman, l'eau c'est la vie, au service des populations Touareg et Peul de l'Azawak. D'un côté, elle relève les manches pour les aider. De l'autre, elle règle son zoom pour les photographier et les écrire. Miss Curtley entre France, États-Unis et Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui notre fil d'Ariane en sol majeur. Alors je me dis qu'il doit bien y avoir trois manières au moins de vous dire bonjour, Ariane Curtley.
Oui, on peut me dire Fofo, Foma ou bien Matraka.
C'est en quelle langue tout ça?
Donc Fofo c'est en germain, Foma c'est en peul. Et Matralaka, c'est en tamashek, la langue des Touaregs.
Où est-ce qu'on parle le germain?
À Niamey. Voilà.
Et comment est-ce que vous diriez à une certaine... comment vous diriez bonjour à une certaine Dolly Parton?
Hey there, how are you?
Wow! Tout de suite le chapeau de cow-boy sur la tête, là. Hein.
Ah, ça, c'est mon côté kentuckien qui ressort.
Et c'est ce qui nous intéresse, justement. Très loin donc de l'Azawak, nous voilà un petit peu à Nashville, façon country. Pourquoi Dolly Parton?
Dolly Parton, bon, ma famille américaine, elle vient du Kentucky. Et Dolly Parton, elle représente vraiment le sud des États-Unis, les Appalaches et un mélange de beauté, de pauvreté aussi de cette zone, mais de beauté humaine extraordinaire.
Back through the years, I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us. And how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small. And I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of I could be in my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes, in my coat of many colors I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors my mama made for me.
Non, c'est très joli de rentrer dans votre Afrique, Ariane Curtley, en faisant un détour par l'Amérique profonde de Dolly Parton. On était un peu rhabillés pour l'hiver. Qu'est-ce qu'elle raconte dans cette chanson Coat of Many Colors?
Donc Dolly, elle part de sa jeunesse dans les Appalaches, où sa maman lui fait un manteau de toutes couleurs. Pendant qu'elle lui fait son manteau, elle lui raconte des histoires de la Bible. Et elle est toute fière, elle va à l'école. Et à l'école, les enfants se moquent d'elle parce que ça montre sa pauvreté. Sa mère n'avait pas l'argent pour lui acheter un manteau. Et elle dit, oui, mais moi, je suis plus riche que vous parce que j'ai l'amour de ma mère que je porte sur mon dos.
Tout ça dans une vibration très country, mais je pense que ça va pas durer avec une Africaine blonde dans le fauteuil d'un sol majeur, Ariane Curtley.
C'est... comme cabinet de curiosité.
Vous aimez ça, les cabinets de curiosité, Ariane ? Vous me regardez avec les yeux effarés. Oui, non, je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que c'est.
Vous ne savez pas ?
Non.
C'est un truc, un endroit, un peu bric-à-brac, où, dans votre cas, on trouve Mahler, Kirikou, la comtesse de Ségur et même l'hymne américain.
Dieu que j'ai soif.
Oh, moi aussi.
Allons demander un verre d'eau aux cuisines.
Allez-y, moi je n'ai pas le droit.
Comment cela ? Tu n'as pas le droit de boire ?
Non, ma belle-mère me le défend.
Comment ? Tu ne peux même pas boire un verre d'eau ?
Absolument rien, jusqu'au dîner. Et au dîner, un verre seulement.
Pauvre Sophie. Mais c'est affreux !
Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul.
Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi.
Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Karaba, la sorcière, a asséché notre source.
Eh oui, à chaque son, son histoire. Ariane Curtley, on va commencer en sol majeur par ce drapeau américain qui flotte au-dessus de vos origines, c'est-à-dire que vos ancêtres seraient d'anciens migrants.
Tout à fait. Ils venaient d'Irlande. Donc c'est des anciens Irlandais qui faisaient pousser des patates. Et pendant la famine des patates, ils sont partis aux États-Unis. Et du côté de ma mère, donc mes ancêtres de ma mère sont russes et allemands, espagnols et français. Donc mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était une princesse russe qui est tombée amoureuse d'un prisonnier. La grande nobilité russe qui se mariait avec un pauvre russe prisonnier.
D'accord, c'est assez joli. Est-ce que c'est cette même arrière-grand-mère qui s'est retrouvée un jour à traverser le nord du Sahara ?
Non, quelques générations après, il y a eu une dame qui est partie vivre en Égypte. Elle était une pianiste. Et elle a fait porter son piano jusque dans l'Égypte sur le dos de chameau.
Mais c'est qui cette dame ? Elle fait partie de votre arbre généalogique ou pas ?
Oui, bien sûr. Ah, c'est une arrière-arrière-arrière-grand-mère.
D'où Mahler dans votre cabinet de curiosité ? J'essaye de reconstituer.
Oui, non. Mahler vient de mon côté américain. Mon grand-père était un chef d'orchestre. Et c'est intéressant parce que ma famille au Kentucky était très pauvre. Mais c'était des grands artistes, des écrivains, des musiciens, des compositeurs. Et aussi mon grand-père qui était amoureux de Mahler et qui écoutait Mahler toute la journée, tout le temps. Qui m'a donné un grand amour de la musique classique.
Donc c'est pas l'Amérique, le rêve américain absolu là, que vous portez en vous ?
C'est un rêve américain compliqué, de par la pauvreté, mais d'une famille très intellectuelle, très ouverte aussi. Mon grand-père, c'était le premier de son village, de sa ville, à inviter des Noirs américains chez lui. Donc très ouvert, donc un grand mélange. Et il travaillait à une distillerie de bourbon, parce que la région d'où je viens, c'est des fabricants de bourbon. Il était scientifique dans la distillerie de bourbon, à tester le bourbon.
Un toast à sa santé. Alors pourquoi Kirikou, donc ce film d'animation qui est apparu sur nos écrans en 98?
Bon, c'est un film que j'ai beaucoup regardé avec mes enfants, mais surtout qui montre la beauté de l'enfant africain. et quelque chose que je fais à travers mes écrits. Les personnes qui m'inspirent le plus au monde, c'est les enfants. Et en général, c'est les enfants africains. Et donc, Kirikou est emblématique de cet enfant africain qui est aussi rêveur, qui, ça c'est un côté très américain, et qui réussit à tout faire, et qui rien ne peut l'empêcher, et qui est un peu magique.
En même temps, c'est une Afrique très, très esthétique et très figée dans le temps. On a un peu reproché, d'ailleurs, les cinéphiles du continent africain ont reproché à ce film de Michel Oslo, je cherchais son nom, oui, d'avoir un peu fixé, figé cette image de l'Afrique dans des temps anciens, avec ces femmes au torse nu qui pilent le mille, un peu comme si l'Afrique n'avait pas bougé. Est-ce que ces images correspondent à vos premières images d'Afrique, à vous, Ariane Kirtley?
Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai grandi dans l'Afrique de l'Ouest et surtout en brousse. Et du coup, cette Afrique est très représentative de mon Afrique. Et d'ailleurs, c'est très représentatif même de l'Afrique où je travaille aujourd'hui. L'Afrique est vaste, elle est diverse. Et bien sûr, il y a l'Afrique moderne. Et Kirikou représente l'Afrique qui est restée telle qu'elle est, qui est depuis 500 ans et qui n'a pas beaucoup bougé. On peut le reprocher, mais c'est une réalité. Et c'est une belle réalité en même temps.
Car dans tout ce dédale et ce puzzle, comme ça qu'on vient un peu de poser en sol majeur, Ariane, la question est étant de savoir où vous avez vraiment grandi.
Quelle est la carte géographique de votre histoire?
Donc en Afrique, j'ai grandi au Mali, au Niger, au Sénégal, en Gambie, en Algérie. Mes parents étaient photojournalistes pour National Geographic et Géo Magazine. Et du coup, on voyageait un peu partout et mes parents, ils faisaient à l'époque des grands articles. Donc, c'était vraiment un travail d'anthropologue. C'est pour ça qu'on était vraiment dans des zones très reculées et inconnues. C'est pour ça que j'identifie avec cette Afrique qui est un peu inconnue et qui est restée un peu telle qu'elle était il y a des centaines d'années. En Gambie, ils ont fait un article sur un gorille qui était en train d'être réhabilité. Sa mère avait été tuée. On l'a essayé de la réhabiliter, de la remettre dans la forêt, dans la jungle. Elle avait 3 ans. Moi, j'avais 3 ans. C'était ma meilleure amie.
Elle s'appelait Julia.
Elle s'appelait Julia, voilà. Ma petite Julia.
Vous jouiez à quoi ensemble?
On jouait à cache-cache, on jouait, on mangeait des mangues dans son hamac. Et puis c'est rigolo parce qu'avec mon frère, il se battait avec lui. Mon frère qui est plus grand, qui a 2 ans de plus que moi. Et avec moi, elle me protégeait de lui, elle me caressait, elle m'épucelait. Enfin, je pense pas, j'avais pas de puce, mais bon, elle essayait en tout cas. Et donc pour moi, ce souvenir et d'avoir grandi aussi avec les petits enfants du village de Talat et Abardok et Tablotte.
Où ça?
Au Niger, au nord d'Agadez. Les petits Touaregs qui m'apprenaient à faire des petites statuettes en banco, qui m'apprenaient un peu de tamashek. Enfin, c'est ça mes souvenirs d'enfance. Faire mes études dans les dunes ou à travers le fleuve Niger, au Mali. Enfin,
ah voilà. Oui, vous n'avez pas eu une scolarité près du radiateur, quoi. Et alors, dans quel modèle d'éducation vous avez grandi, finalement, en allant de pays en pays avec vos parents photojournalistes?
C'est vraiment une éducation qui est basée sur l'ouverture des différentes cultures. C'était bien sûr une éducation scolaire.
Française, américaine?
Donc mon père est américain, ma mère est française. Donc notre scolarité était surtout faite en anglais, mais mon père assurait la scolarité française. On avait les deux. Mais je pense que pour eux, comme pour moi aujourd'hui avec mes enfants, notre scolarité s'était pas réduite aux livres. En fait, pour moi, je voyais pas de différence entre quelqu'un qui vivait en plein milieu d'un village en Afrique ou bien les hommes panthères de la jungle de la Côte d'Ivoire, avec qui aussi j'ai passé pas mal de temps.
Et c'est qui les hommes panthères?
Les hommes panthères, c'est un peuple en Côte d'Ivoire où quand un garçon arrive à l'adolescence, il part vivre 1 an comme un panthère dans la jungle. Et donc, c'est des personnes qui émulent la vie des panthères et qui, voilà, il y a aussi la tradition des masques. Mais pour moi, c'était ça qui était normal. D'ailleurs, la première fois qu'on a survolé New York, mon premier souvenir, c'est, je disais Abidjan, Abidjan, Abidjan. Pour moi, la plus grande ville que je connaissais, c'était Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Qui était Aoudan?
Arudan. Arudan, c'est quelqu'un de très important pour moi. C'est mon papa nigérien. C'était le guide de mes parents quand ils faisaient un article sur les Inadan. Les Inadan, c'est les artisans Touareg du nord d'Agadez. Et Arudan, il vivait avec nous. Et il nous amenait à travers les monts Bagzan, enfin les endroits les plus reculés de l'Aïr au nord Niger. Et c'était un artisan. Mais surtout, il est un grand conteur. Qui m'a raconté beaucoup de contes Touareg, beaucoup sur l'histoire Touareg. Il m'a élevée. Par exemple, j'ai le souvenir quand on faisait les traversées en chameau et que j'en pouvais plus petite, il me portait dans ses bras. Il s'occupait de moi comme si j'étais sa petite fille. Et donc pour moi, Arudan, jusqu'à aujourd'hui, et maintenant il connaît mes enfants, il leur apprend comment tailler la pierre de talc. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris au niveau de la résilience, au niveau de la sagesse.
Voilà. En tout cas, où que vous alliez, Ariane Kurtley, où que vous ayez grandi, il y a toujours eu un coq dans les parages.
Ah oui, toujours.
Et votre rêve premier, c'était de travailler avec les animaux.
Oui, je voulais être primatologue. Et après, j'étais très influencée par Cousteau. Je voulais être biologiste des fonds marins. Mais j'aimais les animaux plus que tout. Aussi, ma mère et ma grand-mère, c'était des grands... Enfin, ils aiment les insectes. Ma grand-mère, elle, c'était la première personne en France à élever des caméléons chez elle. Donc j'aimais les animaux. J'aime les animaux.
Voilà. Au final, vous avez décroché un master en anthropologie et un master en santé publique à Yale, la prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Et puis finalement, vous travaillez avec les hommes. Est-ce que c'est presque pareil que de travailler avec des animaux?
Ce qui s'est passé, c'est que j'étudiais les chimpanzés en Ouganda. Et le but, c'était d'étudier le comportement des chimpanzés, aussi d'essayer de protéger la forêt. Et ce que j'ai rapidement compris, c'est que oui, effectivement, j'aimais beaucoup les chimpanzés, mais qu'on traitait les personnes qui venaient se servir des ressources de la forêt ou même qui venaient tuer les chimpanzés, les autres animaux de la forêt, comme des ennemis. Ce que j'ai vite compris, c'était souvent des populations assez pauvres, qui n'avaient rien d'autre. Et je me suis dit, si vraiment je veux aider l'environnement, je ne dois pas traiter l'homme comme l'ennemi, mais plus aider l'homme à vivre dans son environnement. Et j'ai vraiment appris à aimer l'être humain à travers cette expérience avec les chimpanzés.
Sous quelle étoile êtes-vous née?
Ariane Kurtley.
Bon, bien sûr, ma première réponse quand on parle d'une étoile vraiment de façon littéraire, enfin, c'est vraiment l'étoile du Niger, du désert. Mais en même temps, je dois dire que je suis née sous vraiment plusieurs étoiles. L'étoile de la France, l'étoile du Kentucky. Peut-être je mets en avant mon côté avoir grandi en Afrique. Chaque étoile a vraiment été formateur et déterminant de qui je suis aujourd'hui.
On reviendra peut-être s'allonger et dormir un peu à la belle étoile avec vous tout à l'heure sur toutes ces questions d'identité. Mais là, j'aimerais savoir en fait comment vous êtes tombée un jour dans l'humanitaire.
Bon, comme j'ai dit, moi, je suis vraiment tombée dans l'humanitaire à travers mon expérience avec les chimpanzés. Mais après, je suis retournée au Niger. J'ai travaillé pour CARE International. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment, en tant qu'anthropologue, qui avait commencé en primatologie, mais qui après est partie dans l'anthropologie de la médecine, j'ai compris que pour vraiment aider un peuple, surtout en... Bon, je ne veux pas dire en Afrique, parce que même en France, même aux États-Unis, il faut vraiment comprendre d'où vient cette personne. Quelle est son expérience culturelle? J'aime vraiment les différentes cultures. Et du coup, je voulais étudier comment les différentes ethnies au Niger, les Peuls, les Touareg, les Germains, les Hausa, ils comprenaient le monde au niveau de la médecine, quelles ressources ils avaient, quels étaient leurs comportements. Et donc je suis partie dans une zone qui s'appelle l'Azawak, voilà, au nord de Tawa, pour étudier cette question. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un peuple, des Touareg et des Peuls, qui vivaient dans des conditions encore plus difficile que je n'avais jamais vu ailleurs.
L'eau, c'est la vie. Ça ne peut pas être plus vrai qu'en Afrique de l'Ouest, dans l'Azawak, où plus de 500 000 personnes n'ont pas eu une goutte d'eau depuis 10 mois cette année. Seule la moitié des enfants atteint l'âge de 5 ans et beaucoup de ces enfants meurent de déshydratation. Ils sont le visage du changement climatique. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site donc, de votre ONG, Ariane Kirtley, oui. Amaniman, qui a été créé en 2006. Donc, vous nous le disiez, la Zawak, ça se situe à peu près à 800 km de Niamey. L'idée de cette ONG, Amaniman, vous a été inspirée par une personne bien particulière, une certaine Mouhaini, qui est une jeune Touareg.
Tout à fait. Mouhaini, c'est la petite fille de Al-Hassan et Sadouane. Al-Hassan et Sadouane, c'est le couple qui m'a accueillie la première fois que je suis allée dans la Zawak. Al-Hassan, la première nuit, il a voyagé 20 km pour me ramener un bouc pour l'égorger, pour que j'aie de la viande à manger. Il ne savait pas à l'époque que je suis végétarienne. J'ai mangé ce bouc. Mais c'était pour décrire l'hospitalité. Mouhaini, c'était toutes les petites filles du village ou du campement. Et ces petites filles que je voyais marcher des kilomètres tous les jours pour chercher de l'eau. À l'époque, c'était la saison des pluies. Elles allaient chercher de l'eau dans les mares. Et ça, c'était la bonne période de l'année parce qu'elles avaient de l'eau pas trop loin, même si c'était à 3-4 kilomètres du campement. Mmh. Et je ne pouvais pas voir ces petites filles mourir de soif. C'était pas possible. Donc Mouhaini et ses petites amies, Taka, Tera et Chatou, j'ai même écrit une histoire sur ces petites filles, m'ont inspirée à fonder Amaniman, c'est la vie.
Alors voilà. Qu'est-ce qu'une ONG comme la vôtre peut faire pour aider ces populations Touareg et Peul à avoir accès à la vie, c'est-à-dire à l'eau?
Donc la première chose qu'on fait, on construit un point d'eau. On construit des forages de 200 mètres de profondeur pour apporter de l'eau. Et à travers ce forage, on crée ce qu'on appelle des oasis de vie. Donc, un forage va desservir peut-être de 10 000 à 30 000 personnes et le bétail. Et après, on aide à construire des écoles ou à soutenir les écoles qui existent déjà. On a un grand problème, un grand programme de santé où on fait du curatif pour les enfants et les femmes enceintes. Par exemple, récemment, on a identifié un petit garçon qui s'appelle Doubara, qui a le noma.
Décrivez-nous, vous m'avez envoyé une photo qui est terrible.
Ça s'appelle la gangrène du visage. Ça commence avec une petite gingivite et qui, avec la malnutrition et le manque d'hygiène, ça grandit, ça mange, c'est des bactéries qui mangent complètement le visage. Ça peut manger toute une mâchoire jusqu'au nez, jusqu'aux yeux. Donc mon équipe de santé, il lui donne des antibiotiques et on a trouvé... Non, ce qui est incroyable, j'ai écrit son histoire que j'ai postée sur Instagram et Facebook. Je ne sais vraiment pas comment faire, même s'il est soigné, même si on reconstruit son visage avec la chirurgie, qu'est-ce qui va devenir ce petit garçon orphelin? Et j'ai eu une réponse incroyable, je n'ai pas demandé un sou. En l'espace de 3 jours, j'ai eu 4 000 $. Et des médecins à Niamey qui ont dit « on va le soigner ». Des personnes à Niamey qui ont dit « on va s'occuper de lui s'il n'a pas d'autres ressources ».
Donc il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place.
Et c'est ça qu'on fait, on fait aussi ce lien.
Pour un sol majeur, j'emmène maintenant nos oreilles sur ce territoire de la Zawak où vous ne faites pas que forer, Ariane Kirtley, vous enregistrez aussi tout ce qui bouge. Décryptage en sol majeur, Ariane Kirtley, ces sons si familiers pour vous quand vous retournez dans la Zawak, côté Niger.
Premier son qu'on entend, c'est le son du pouli. C'est le son de l'eau qu'on remonte, de ces puits de 120 mètres. Et les autres sons, c'est le son de l'espoir. C'est le son des enfants qui chantent, qui remercient, ou bien qui chantent des petits comptines sur l'hygiène, sur l'importance de l'eau.
Vous travaillez avec quelle communauté en particulier?
On a plus de 20 communautés avec lesquelles on travaille, mais les communautés principales que je nommerai aujourd'hui, c'est Kouloubadé, qui est une communauté Peul. On a la communauté Débagay, Kitchgari, Tangarwashan et Chinwagari.
Que vous connaissez bien dans leur code, dans leur rituel, dans leur mentalité.
J'ose dire que je connais un peu, oui.
Ouais, un peu. Bon, vous êtes prudente. Hein.
Voilà, j'essaie de rester humble. Je les aime tellement que j'essaie de les connaître. Après, je pense que... Voilà.
Ouais. Comment vous faites pour les financements? Parce que toutes ces techniques de forage, ça coûte bonbon, comme on dit.
Et effectivement, c'est pas évident. Les financements viennent principalement d'individus à travers le monde et des fondations, des petites fondations principalement aussi. Mais notre moyen de récolter les fonds qui est celle qui me touche le plus, on travaille avec plus de 150 écoles à travers le monde. Et pourquoi ça me touche? C'est parce que je peux dire que Amanima ne travaille pas seulement avec les enfants du Niger, de l'Afrique de l'Ouest. Non, on travaille avec des enfants partout au monde pour les sensibiliser. Les enfants américains ou au Japon, en Suède ou bien France qui n'ont jamais eu un problème d'eau, qui n'ont jamais manqué de nourriture. On les met en contact avec des enfants qui ont une joie de vie au Niger que eux, parfois, ils oublient même, mais qui n'ont pas ces ressources-là. On les met en lien. Mmh. Et ça, c'est magnifique.
Vous travaillez au rapprochement Nord-Sud. Avec voilà. Ce que vous appelez les puits de l'amour.
Avec les puits de l'amour. Et une histoire qui, pour moi, m'a marquée, qui me marquera à vie. Il y avait un petit garçon de 4 ans qui, sa maîtresse, ne l'avait jamais vu sourire. C'était aux États-Unis. Et je suis venue, j'ai parlé d'Amaniman, j'ai parlé des peuples de l'Azawak, j'ai parlé de Muheni, de Taka, de Raichatou, de toutes ces petites filles qui m'avaient tant touchée. Et ce petit garçon, il a souri. Il est rentré chez lui. Il en a parlé avec sa mère. Il a dit « Maman, je veux trouver de l'argent pour ses enfants. Je veux financer un forage pour eux. » Et en l'espace d'une nuit, il a vendu du romarin. Et il a eu 100 dollars. Et pour moi, ces 100 dollars valent des millions de dollars que je pourrais récolter ailleurs. Parce que ça a changé son monde.
Vous êtes toute frêle devant moi, mais je sens quand même une force intérieure incroyable, hein, Ariane Kirtley, pour porter cette ONG à Maniman. Habib Kouaté, pour En Sol Majeur, ça c'est un chanteur malien, né au Sénégal, il est dans les starting blocks pour vous, avec le titre Maliba, c'est-à-dire que là on y parle, je crois, du Grand Mali, symbolisé par un taureau. Pourquoi vous avez choisi cette chanson?
Alors, j'ai grandi en partie au Mali, donc c'est très important pour moi, mais aussi j'aime beaucoup Habib Kouaité, mais c'est surtout son balafoniste, Kelétigué Djébaté, qui me touche beaucoup, parce que mon mari, qui fait beaucoup de musique africaine, de percussions africaines, a beaucoup travaillé avec Kelétigué. Et Kelétigué, j'ai son fils Fasséri, c'est d'après lui qu'on a nommé notre aîné, Fasséli, d'après son fils Fasséri. Et sa musique est magnifique, il fait transpercer l'amour de l'Afrique à travers le monde grâce à sa musique, et je trouve ça incroyable.
Ha no kange iko sanule hono no miru misi bali bali
bede ki janto
paso de nyuma
bede ki janto turalina bede ki janto
mali de nyuma.
Abikwete, pour continuer en sol majeur, le portrait d'Ariane Curtley, tout ça, ça se passe sur fond bleu touareg. C'est l'heure maintenant d'une chevelure longue, aux origines blondes, à passer au peigne fin d'ailleurs.
H.
Ash, come, home, sweet home.
Vous qui avez vécu dans plein de villes de par le monde, j'en citerai juste quelques-unes, Agadez, Niamey, Dakar, Abidjan, Paris, et puis dans le Kentucky, la ville c'est quoi, vous m'avez
dit ? Bardstown.
Ok. Que dit votre GPS affectif, Ariane Curtley ? Où est-ce que vous avez l'impression de rentrer à la maison ?
Cette question de home, c'est très intéressant. Parce que je pense pendant très longtemps, je disais aux gens, je n'ai pas de home. Et maintenant, au contraire, je dirais, je suis home partout. Donc Niamey, bien sûr, je me sens très à l'aise à Niamey aujourd'hui. C'est là où je vis en grande partie avec mes enfants. On a notre âne, on se balade 2 à 3 heures par jour avec notre âne dans notre quartier en plein centre de Niamey. J'ai mon home vers Saint-Étienne, en France, dans une maison qui est dans ma famille depuis 300 ans. Et mon home aux États-Unis, est-ce que c'est le Kentucky ? Le Kentucky m'a vraiment formée. Et Bardstown surtout, c'est vraiment la campagne aussi. Je viens vraiment de la campagne, que ce soit en Afrique ou en France ou aux États-Unis, c'est plus la campagne.
C'est votre côté de Liparton.
Voilà, c'est mon côté vraiment de Liparton.
Vous êtes réconciliée avec ce côté américain ?
Ah oui, tout à fait.
Et parce vous ne l'avez pas été pendant de longues années apparemment.
De longues années, j'étais très perturbée par ce côté américain parce que je trouvais surtout Bardstown, surtout le Kentucky, ayant grandi ailleurs. Pour moi, je ne comprenais pas cette façon d'être très insulaire. Les Américains ont cette façon, parfois, d'oublier qu'il y a un autre monde à l'extérieur des États-Unis. Et c'est pour ça que, comme je disais, tous mes amis, c'était vraiment pas de mon milieu, entre guillemets, mais c'était des Noirs américains ou African Americans, ou bien c'était vraiment des personnes de classe très, très pauvre aux États-Unis, parce que c'était là où je me sentais le plus à l'aise. Mais là où je me suis vraiment réconfortée avec les États-Unis, c'est depuis que j'ai commencé à Maniman. J'ai réalisé que les Américains ont une générosité et une compassion, mais incomparable. La première fois que j'ai eu de l'argent pour faire un forage, je parlais avec une dame. Je pleurais, j'étais en larmes, j'étais sortie de la Zawak et je me suis dit, mais je dois aider cette population, mais je ne sais pas comment faire, comment je vais faire. Elle m'a donné 20 000 dollars. Et puis j'ai dit oui, mais ça, c'est pas assez pour faire un forage. Elle m'a donné 100 000 dollars en plus. Et c'est juste un exemple. Bon, bien sûr, elle avait les moyens, mais elle n'était pas non plus la plus riche de toutes les personnes au monde. Mais c'est cette générosité extrême. Et puis aussi, une autre chose que j'aime avec l'Amérique et que j'ai vraiment appris ayant grandi au Kentucky, c'est que quand on a un rêve, on peut accomplir tout ce qu'on veut. On n'est pas limité.
Là, vous êtes labellisée américaine, là, sur ce coup-là.
Ah là, je suis vraiment américaine.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ah oui. Hein,
c'est ce qui pousse, c'est le moteur de cette ONG.
C'est ce positivisme, cette croyance dans ce rêve. Et donc, il y a le rêve américain, mais il y a le rêve tout court. Et ça, c'est américain.
Alors, je vous emmène ailleurs, malgré tout, parce que le son de la maison ressemble un peu à ça, quand même, pour vous.
Pardonnez. La base. ما طلعناك بس لا
merci d'être avec nous. Il est tout juste 12h30 entre l'hiver 14h30 ici à Paris sous la pluie.
Niamey vu et raconté par Ariane Curtley pour En sol majeur sur RFI.
Niamey, mais il y avait un peu de la France aussi. il me semble.
Niamey, un peu de RFI.
Oui, alors Niamey, j'ai pas grandi à Niamey. Donc c'est intéressant parce que Niamey est devenu chez moi, entre guillemets, depuis qu'il y a des problèmes d'insécurité, depuis que je peux passer beaucoup moins de temps en brousse. Et où je rencontre des personnes que d'autres personnes ne regarderaient jamais.
Comme qui ?
Comme les femmes qui font le farine massa ou les petits beignets sur les coins de rue, comme les sans-abri, je les appelle les hommes marrons, parce qu'ils sont recouverts de sable, tels que bon, les petits-enfants chercheurs de poubelles, ou bien juste les hommes qui causent au coin de la rue, à leur fada, leur lieu de rencontre. Donc c'est ça, Niamey, c'est chez moi, parce que je me sens vraiment à l'aise. Même si j'ai eu des périodes où je me suis sentie moins à l'aise à Niamey. Pendant la phase de Charlie Hebdo, par exemple, je continuais mes balades et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais Français, rentre chez toi !» Et j'étais étonnée parce que c'était dans mon quartier. Je me suis dit « Non, mais ça m'a fait comprendre cette mécompréhension. » Des cultures que voilà, d'être blanc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou bien j'ai eu des enfants qui m'ont jeté des pierres. Bon, ça pas quand même, quand j'étais petite au Sénégal, j'ai eu des enfants qui m'ont jeté des pierres étant blanche. Mais même ça, je trouve que c'est très important par rapport à mon évolution.
Qu'est-ce qui est important ?
De comprendre qu'il y a des personnes qui vont me juger parce que je suis blanche. Que je suis pas. Je me dis africaine, mais finalement, je suis blanche. Tous les jours, je me poste. Sur Instagram, j'ai même publié des histoires, mais je poste sur mes amis en Afrique. Et il y a des personnes qui vont me dire « Mais qui es-tu, femme blanche, d'écrire sur des Africains, tu ne nous connais pas ?» Mmh. Et ça me fait de la peine parce que, ayant grandi en Afrique, avec que des amis africains, même aujourd'hui, quand je suis à Niamey, je vis que avec des populations africaines et assez simples. Mais quand même, je comprends qu'on puisse me voir comme différente, qu'on puisse me voir comme quelqu'un qui a plus de ressources que les autres.
Donc la question de la couleur ne sera jamais anéantie.
Bien sûr, parce que partout où je suis différente. Même si ici, en France, aux États-Unis, je suis blanche, je ne suis pas comme les autres. Et au Niger, je ne suis pas comme les autres, ou en Afrique. Mais ce n'est pas grave, ça me fait grandir.
Intéressant, parce que ce qu'on comprend, c'est que, évidemment, vous pourriez vivre... Je vous ai devant moi, là, vous êtes habillée d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes un peu habillée à l'africaine.
C'est un pagne, c'est un wax.
Pourquoi vous habillez en africaine ?
Parce que je... Étant un peu broussarde, je n'ai pas l'habitude de m'habiller correctement, on va dire. Mais j'aime émuler les femmes africaines qui savent tellement bien s'habiller, qui sont tellement dignes. Même les femmes en brousse, elles sont magnifiques. Elles ont beau rien à voir, elles vont se faire des tresses magnifiques. Elles vont être habillées avec des bijoux extraordinaires, avec des habits comme elles peuvent. Et par respect pour ces femmes-là. Et voilà, c'est pour aussi honorer Fatih, qui est couturière, qui fait des choses magnifiques.
Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on sent que vous pourriez vivre dans notre monde individualiste et consumériste à l'excès, notre monde occidental. Mais Ariane Kurtley, vous semblez préférer l'aridité de la vie sous le ciel de l'Azawak.
Ah oui. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis vraiment... peut-être même contre le matériel. J'essaye de vivre avec le moins de matériel possible. Et d'ailleurs, j'expose mes enfants à ça. Donc quand on vit à Niamey et qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité pendant des jours, je trouve que c'est très important pour eux qu'ils aient cette expérience d'une vie qu'une majorité de personnes au monde y vivent sans, avec très peu de matériel.
Vous pensez que la vie est plus... Voilà, dans ce contexte où il n'y a justement pas le plus, le luxe, le pas nécessaire.
Oui. Par exemple, l'Afrique que je connais, rurale, a une richesse sociale incroyable qui, je pense, qui est nourrie par le fait qu'il n'y a pas énormément de richesse matérielle.
Alors, je l'ai dit, quand le soleil se lève, vous aidez les populations peu les Touaregs, mais quand le soleil se couche, vous photographiez et vous écrivez leurs histoires. Voici un court extrait de votre nouvelle intitulée « La quête de l'eau ».
8. H comme hors champ.
Ce voyage sous le soleil torride en plein milieu de l'après-midi, est insupportable. Mouheni a l'impression d'avoir été posée sur un fourneau, comme une théière sur le charbon. Les filles, n'ayant pas pu remplir ne serait-ce qu'un seul de leurs jerrycans, ont terriblement soif. Les ânes marchent comme si les jerrycans étaient remplis. Mouheni n'aime pas les battre avec un bâton. Elle tire les bêtes fatiguées avec une corde. Takat et Raïchatou aident en les poussant par l'arrière. Pendant l'un de ses efforts, l'une des tongs de Takat s'accroche à une racine, la faisant tomber face contre terre. En se relevant, elle examine sa tongue avec regret. La lanière est déchirée, rendant la chaussure inutilisable. La terre la brûle et ce n'est pas facile d'éviter les lits d'épines d'acacia sur le sol. Néanmoins, elle n'ose pas se plaindre, ne voulant pas que Raïchatou et Mouheni s'inquiètent. De toute façon, que peuvent-elles faire pour elle? Même les ânes seraient trop épuisées pour la porter.
L'histoire de Mouheina, donc sous votre plume, Ariane Curtley, c'est pas seulement une histoire de quête de l'eau, c'est aussi l'histoire d'une belle Touareg qui va avoir le cœur chaviré par un certain Fada, le jeune Peul. C'est-à-dire que là, vous posez la question des mariages interethniques.
Oui. En même temps, c'est deux choses. C'est le mariage interethnique, c'est le mariage précoce et c'est le mariage décidé à la naissance. Ou une femme, ou même un homme, ils n'ont pas le choix. Ils se marient souvent entre cousins, c'est déterminé à la naissance. Et donc, je parle de ces trois thèmes et de l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Comment on peut aimer? Est-ce qu'on a le droit d'aimer?
Alors, vous, est-ce que vous ne posez pas un regard de blanche là, et d'occidental sur toutes ces problématiques?
Par rapport au mariage précoce, effectivement, ça, c'est quelque chose où je reste occidentale malgré tout.
Pourquoi avoir le besoin d'écrire toutes ces histoires, qui sont des histoires vécues, donc?
Pour moi, ça ne suffit pas de vivre dans un monde. Je pense que c'est peut-être mon côté anthropologue. Tout ce que je vis, ce que je trouve fascinant, je ne veux pas le garder pour moi. Je trouve que c'est une perte pour le monde de ne pas le partager. Enfin, il faut que le monde entier connaisse ces gens fascinants qu'ils ne connaîtraient pas autrement.
Donc il faut que vous soyez édité hein, pour le grand partage.
Oui, voilà. Effectivement. Voilà.
Et vous photographiez aussi tous ces destins qui sont proches de vous aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que vous avez une exposition qui est prévue prochainement avec la mairie de Paris. Dans le 5e arrondissement, exposition de vos photographies. J'aimerais bien qu'on partage une photo avec vous. J'en ai repéré une somptueuse. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, Ariane Curtley?
Donc cette photo, il y a quatre hommes Peul, Wodabé, de la zone de l'Azawa, qui sont en train de danser une cérémonie de Gerwul. Alors les cérémonies de Gerwul, ce sont des cérémonies qui fêtent la pluie, qui remercient le ciel de la pluie. Mais c'est une cérémonie très importante parce que c'est une cérémonie où c'est les hommes qui se maquillent, qui se déguisent en quelque sorte, et qui dansent et qui chantent.
Je croyais que c'était des femmes, hein?
Ah oui, mais là non, c'est des hommes.
Ils sont beaux comme
ils
des femmes.
Ils sont magnifiques. Alors les hommes Peul, voilà, les Peul en général, les Wodabé surtout, sont magnifiques. Mais ils chantent et ils dansent pour attirer l'attention des femmes. Et les femmes vont choisir après l'homme qu'elles préfèrent.
C'est eux qui jouent les séductrices, quoi.
C'est ça. Et ils font même des potions magiques pour attirer la plus belle femme. La beauté est très importante pour eux. Et donc les hommes aussi. Mmh. Ils aiment se rendre très beaux pour leurs femmes.
Donc, vous aimez écrire l'histoire de ces enfants dont le destin dépend d'une pluie. Vous qui entendez évoquer le nom d'Allah régulièrement dans cette région du monde, à 800 km de Niamey, au Niger, je rappelle, est-ce que votre ONG, vous diriez qu'elle prend sa source finalement dans des valeurs chrétiennes?
Oui. Même si on arrête, ce n'est pas du tout chrétien. Ma famille est très catholique. Ma famille française. Et Je pense que pour moi, Jésus est l'exemple le plus extraordinaire d'être vivant, même s'il n'est pas Dieu, même s'il n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas ça l'important.
Même si on n'y croit pas.
Même si on n'y croit pas, Jésus a vécu pour les pauvres, en donnant aux pauvres, et en se battant contre l'injustice, en se battant contre ceux qui abusaient des pauvres. Et c'était un grand guérisseur, le plus grand guérisseur du monde. Enfin, dans mes croyances à moi. Oui. Et du coup, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas... J'aime l'islam, j'aime le soufisme. Je crois en Dieu, je crois en l'amour. Mais je pense que ma base de vouloir donner et aider ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, parce que c'est qu'une chance d'avoir grandi dans une famille plus aisée que d'autres, et ben, cette envie de rendre, ça vient de ma famille qui aime Jésus.
En sol majeur at RFI.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Ariane Curtley, le nom d'une ONG à retenir, Aman Iman, l'eau c'est la vie. Est-ce que ce serait sympa d'écouter pour finir cet En sol majeur un certain Leonard Cohen, mais alors allongé dans le désert, dans votre désert. J'en rêve moi-même. Leonard Cohen, c'est pas joyeux, hein.
Oui, mais je pense que c'est mon côté mélancolique qui ressort avec Leonard Cohen.
It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way.
En sol majeur avec Facebook, Twitter, en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Tania Tsikounas, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec la belle chanteuse Noémie Weisfeld. À la semaine prochaine.